bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est dit ouvert à un dialogue inclusif et apaisé en République démocratique du Congo. C'était lors de la cérémonie d'échange des vœux avec les ambassadeurs et diplomates accrédités en RDC, tenue le samedi 31 janvier à Kinshasa. Si ce dialogue devait se tenir pour le chef de l'État, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent les pactes nationaux. Longtemps réclamée par l'opposition, l'idée d'un dialogue national intercongolais inclusif est également portée par les confessions religieuses dont la CENCO et l'SCC, encouragée par plusieurs partenaires occidentaux du pays dont la France et la Belgique. Félix Tshisekedi estime que cette rencontre ne saurait être invoqué pour relativiser une agression ni pour diluer les responsabilités établies. Alors que les dirigeants de l'HCM23, mais aussi l'ancien président Joseph Kabila, sont condamnés par la justice congolaise. À cette occasion, le président de la République a appelé la communauté internationale à agir concrètement pour protéger la souveraineté du pays et soutenir les efforts de paix. Quelle analyse faire de l'organisation d'un dialogue intercongolais tel que le conçoit le président Félix Tshisekedi? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici au studio Dieudonné Kishi, le président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Il est également initiateur du Front Anti-Dialogue National. Bonsoir Monsieur Dieudonné Kishi.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Également ici au studio Martin Mkonkole, il est secrétaire général adjoint et porte-parole du parti Alliance pour les changements, parti politique de l'opposition dont le leader est Jean-Marc Kabound. Bonsoir honorable Martin Mkonkole.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Et en ligne Thiel Batoumi, il est analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Bonsoir Etiel Batoumiki.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kafi et aux co-débatteurs dans le studio.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokafi.net.
Nous l'avons dit, le président de la République appelle la communauté internationale à des sanctions concrètes pour préserver la souveraineté du pays et appuyer les efforts de paix. C'est exprimant samedi à Kinshasa, lors de la cérémonie d'échange des vœux avec les ambassadeurs et diplomates accrédités en RDC. Félix Tshisekedi a réitéré son refus catégorique de toute négociation avec les auteurs des crimes perpétrés contre les populations congolaises. Pour le chef de l'État, les récentes déclarations de la diplomate rwandaise devant les congrès américains reconnaissant la collaboration sécuritaire entre les Rwanda et la rébellion AFCM23 viennent de conforter la position de la RDC et engage désormais clairement la responsabilité de la communauté internationale. Sur la question d'un éventuel dialogue, Félix Tshisekedi précise que ce dialogue ne peut en aucun cas légitimer une agression. La justice, insiste-t-il, suivra son cours jusqu'au bout avec rigueur et sans complaisance. On écoute le président Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à Son Excellence le président João Manuel González Lourenço, président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer les responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations.
Dieudonné Kishio, je commence avec vous. Vous êtes président du parti politique Congo Positif, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Vous êtes également initiateur du front anti-dialogue. On vient de succéder les chefs de l'État. Maintenant que lui qui est votre haute autorité de l'Union Sacrée Nationale, président de la République, s'est dit favorable au dialogue, on espère que vous soutenez aussi cette idée de la tenue d'un dialogue national.
Le front, d'abord merci pour l'invitation, cher Guy. Le front anti-dialogue a toujours eu une position extrêmement claire sur la tenue ou la non-tenue du dialogue dans notre pays. Sur la tenue du dialogue, le front anti-dialogue a toujours soutenu que le seul dialogue qui soit susceptible d'être convoqué dans notre pays, c'est celui qui s'organiserait dans le respect strict de deux principes. D'abord, le principe qui est édicté à l'article 5 de la Constitution, c'est-à-dire les dialogues qui est tenu en accord avec ce que veut le peuple souverain de la République démocratique du Congo. Pas des dialogues où certaines composantes de notre société s'accaparent de la souveraineté du peuple congolais pour exiger des dialogues, alors que le peuple congolais, le peuple souverain de la République démocratique du Congo s'est déjà prononcé, d'abord en mettant en place les institutions constitutionnelles, de deux, en allant au vote, c'est-à-dire en accordant des mandats à des élus qui, eux, ont la mission de gérer le pays, c'est-à-dire de s'occuper de tous les problèmes du pays.
Et donc, un dialogue qui respecte la Constitution.
Un dialogue qui respecte.
Et c'est ça même la position du chef de l'État.
Oui, le chef de l'État, c'est la personne élue qui représente cette condition-là, aujourd'hui, dans notre pays, mieux que quiconque.
Donc, vous êtes d'accord
avec lui. Personne d'autre, alors.
Vous êtes d'accord avec lui.
Nous sommes d'accord à partir du moment où c'est lui à qui les Congolais ont donné le mandat de gérer le pays, à moins qu'on me dise que mandat veut dire autre chose. Donc on a donné une partie, autre chose on a gardé. Ça c'est la première chose. Donc si le dialogue est convoqué par le président de la République dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le peuple souverain de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 5 de notre constitution, ce dialogue-là, il est correct.
Et s'il est organisé sur le territoire congolais?
Bon,
c'est ça aussi la position chez l'État.
Oui, s'il est aussi organisé sur le territoire congolais, ça c'est pour nous, ça c'est pas très très indispensable, mais c'est symbolique. C'est symbolique parce que tous ces dialogues que nous critiquons, que le front anti-dialogue est en train de critiquer, ce sont des choses qui se sont boutiquées à l'extérieur. Pourquoi pas une fois écrire l'histoire de notre pays sur les sols de nos ancêtres?
Alors, lorsque vous suivez les discours du chef de l'État au sujet du dialogue, vous êtes d'accord avec lui?
Nous sommes d'accord avec lui sur le principe que c'est la personne à qui les peuples souverains de la République démocratique du Congo a conféré le mandat pour gérer l'ensemble des problèmes des Congolais. Nous sommes d'accord avec lui sur ces plans-là. De deux, nous sommes opposés à l'idée que le peuple soit toujours contourné, qu'on puisse confisquer par des manœuvres de dialogue la souveraineté du peuple congolais. Nous, c'est à ça en fait que nous sommes opposés.
Mais il ne l'a pas dit lui.
Il ne peut pas le dire parce que le peuple lui a confié, le peuple souverain de la République démocratique du Congo lui a confié le mandat. Et vous savez, l'article 5 interdit à quiconque de s'attribuer le mandat du peuple congolais. Parce que ça, c'est une forme de violation de la Constitution lorsque, sans poser la question au peuple, s'il veut ou pas du dialogue, vous sortez pour dire, alors qu'il a fait autre chose, c'est-à-dire il a installé les institutions, il a voté les dirigeants, vous sortez pour dire, on tient le dialogue. Sans poser la question à ces peuples, ça devient une violation de la Constitution, de la souveraineté du peuple congolais.
On posait la question au peuple à travers les parlements parce que c'est eux qui sont élus, n'est-ce pas?
Oui, il y a beaucoup de mécanismes pour poser la question au peuple. On peut aller au référendum. Parce que vous allez voir que de tous ceux qui ont réclamé des dialogues, chacun est sorti de son lit sans jamais poser la question, même aux membres de son organisation.
Mais cette sortie, cette prise de position, n'est-ce pas, du chef d'État au sujet d'un éventuel dialogue, vous la saluez?
Nous la saluons en posant des conditions, en proposant d'autres exigences. Parce que vous savez, les dialogues dont on parle, les dialogues qui ont confisqué chaque fois la souveraineté du peuple congolais, ces dialogues-là ont fait beaucoup de mal qu'ils n'ont fait du bien à ces peuples. Voilà pourquoi nous disons que si le dialogue doit se tenir, pour autant que tous ceux qui réclament des dialogues prétendent qu'ils les font dans l'intérêt du peuple congolais, nous avons dit que chacun commence par faire quoi? Une première chose, publier les cahiers des charges. Que chaque composante, que chaque groupe, que chaque organisation qui pense qu'il faut tenir les dialogues puisse publier, ainsi pour permettre au peuple souverain de la République démocratique du Congo de connaître quelle est la revendication de chacun, quelle est la motivation de cette revendication. Deuxième exigence pour nous du Front Anti-Dialogue, si vraiment, Dieu merci que le président de la République a parlé au conditionnel, il a dit si dialogue devrait se tenir. Donc, et nous aussi nous disons, si dialogue devrait se tenir, que chacun publie ses revendications. Deux, que ce dialogue-là, pour une fois dans l'histoire de ce pays, que ce dialogue-là soit transmis en direct des radios et télévisions, pour permettre au peuple congolais de suivre qui vient là dire quoi.
La conférence nationale souveraine avait été suivie à la télévision nationale.
Voilà, et en ce moment, peut-être le peuple n'avait pas la conscience politique qu'il a aujourd'hui.
Sans City, ça s'est tenu très loin, peut-être que c'est...
Très loin de nous, dans l'opacité totale, et personne... Et après, on a vu des résolutions, et ça s'est imposé à tout un peuple comme ça. Troisième, troisième exigence pour nous du Front Anti-Dialogue, c'est que toutes ces résolutions-là, lorsqu'elles seront prises, qu'elles soient soumises au Parlement, pour qu'elle puisse être entérinée par le Parlement qui représente aujourd'hui les peuples souverains de la République démocratique du Congo. Deuxième chose, que ces mêmes résolutions soient transmises à la Cour constitutionnelle pour permettre de voir si ces résolutions-là sont conformes aux prescrits de notre Constitution. Je signale que nous ne soutenons pas cette constitution, mais nous en parlons justement parce que c'est la seule qui nous régit en ce moment. Et donc, s'il y a des résolutions de ces dialogues, pour qu'elles puissent mieux s'appliquer, elles doivent passer par la Cour constitutionnelle pour lui permettre de nous dire si c'est conforme à la Constitution ou pas.
Alors, rapidement, s'il faut revenir à cette déclaration chez l'État, d'un côté, il parle d'un dialogue inclusif, mais de l'autre, il dit qu'il n'est pas disposé à négocier avec toutes ces personnes qui ont commis des exactions contre la population congolaise. Comment vous comprenez cela?
Mais c'est en toute logique, c'est de la simple logique, mon cher Guy. Quelqu'un a frappé votre enfant, quelqu'un a violé votre enfant. Vous lui pardonnez. Est-ce que cela veut dire que vous n'irez pas avec lui en justice? C'est la simple logique. Donc, les gens qui ont pris les armes, ils ont pris les armes volontairement. Ils ont tué les Congolais à volonté, par volonté. Personne ne les a poussés.
Donc, à travers ce dialogue, on ne va pas blanchir certaines personnes.
Parce que, et c'est ça que le Front Anti-Dialogue a toujours condamné. C'est-à-dire que le dialogue dans ce pays a deux fonctions. La première fonction, c'est de consacrer l'impunité. Vous tuez les Congolais comme des animaux. Et vous savez, nous sommes restés la seule espèce au monde qu'on peut tuer comme on nous tue. Voici 30 ans. Et demain, venir diriger les mêmes personnes que vous veniez de tuer alors que vous avez même encore des sangs dans vos mains.
Merci. Martin Gonkolé, vous êtes secrétaire général adjoint et porte-parole du parti Alliance pour les Changements, parti politique de l'opposition dont le leader est Jean-Marc Kabunda Kabunga. Maintenant que le chef de l'État s'est dit favorable au dialogue que vous avez toujours réclamé, n'est-ce pas que vous êtes satisfait, vous de l'opposition?
Je tiens d'abord à vous remercier, M. Guy Maté, et je profite de cette occasion pour présenter les vœux les meilleurs, parce que nous sommes encore au début de l'année, à toute la population et surtout assez de mon territoire de Kabinda. Je crois, monsieur Guy Maté, rappelez-vous au mois de novembre 2025, l'honorable Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement de notre parti, avait tenu une conférence. Et lors de cette conférence, il avait estimé qu'il n'y avait qu'une seule solution qui nous restait pour le moment, afin de nous ramener à la paix dans notre pays et de nous permettre de pouvoir contrôler l'intégrité territoriale. C'est ainsi qu'il avait lancé déjà un message très fort aux institutions de la République pour dire que nous devons nous retrouver autour d'une table en nous regardant en face, parce que pour le moment, tenant compte de la crise, tenant compte des morts enregistrées à l'est de la République, dans les Bandundu et ici à Kinshasa et à Ituri, il y avait nécessité qu'on arrête avec ces marées humaines qui étaient occasionnées par ces fameux Kagame et les amis de l'autre côté qui sont ces supplétifs M23 et autres. Et nous avions même à son temps là, par la bouche de du président Jean-Marc Kabound, donné même une date pour dire nous aimerions qu'au plus tard le 15 décembre, qu'on convoque ce dialogue pour nous permettre d'entrer en 2026 dans la paix et dans l'intégrité territoriale de notre pays.
Et donc là, vous êtes satisfait parce que le chef de l'État vient de, n'est-ce pas, de dire qu'il est ouvert à ce dialogue.
Ce n'est que le début de la solution d'un combat que nous sommes en train de mener. L'intention, elle est très bonne, mais nous aimerions que nous puissions aller jusqu'au bout. La volonté, elle est là. Il a déclaré devant les corps diplomatiques, c'est une très bonne chose. Ça nous arrange, ça a été déclaré à la fin du mois de janvier, et nous pensons que cette façon-là de faire des ouvertures, que ça ne soit pas une possibilité de ne pas réellement faciliter l'effectivité de ces dialogues.
Donc vous souhaiteriez qu'il aille jusqu'au bout. Comment vous réagissez à l'idée selon laquelle ces dialogues, ça c'est lui qui l'a exprimé, ces dialogues, s'il est organisé, va se dérouler sur le territoire national et conduit et organisé par les institutions de la République, et tout cela dans le respect de la Constitution et des lois de la République et des règles démocratiques?
Nous sommes, à l'Alliance pour le changement, nous sommes les sympathisants et les esclaves de la démocratie. Nous respectons bien les peuples et nous respectons les textes de la République malgré les quelques failles que ces textes peuvent disponibiliser. Parce que c'est les seuls qui nous garantissent l'instauration et la gestion démocratique dans notre pays. S'agissant du lien, nous n'avons pas à réfléchir pour les liens pour le moment. Parce que, M. Guy, n'oubliez pas que le régime actuel est aussi parmi les partis en conflit. Si nous demandons qu'il y ait le dialogue, cela ne veut pas dire que c'est un dialogue qui est décidé et voulu par réellement les régimes en place.
Et justement, c'est ce qu'il veut, hein?
Non, mais ça, c'est une erreur.
Il doit convoquer et organiser ce dialogue.
C'est une erreur. Pourquoi, si réellement c'est un problème qui concernait rien que lui et ses institutions, à quoi bon parler d'un dialogue? Il en a la possibilité de pouvoir organiser des réunions comme il veut avec ses institutions. Mais c'est parce qu'ici, il y a un problème. Le problème que nous disons, il y a les problèmes de l'insécurité, il y a les problèmes de la paix que nous n'avons pas sur le plan national. Il y a un problème de l'intégrité territoriale que nous n'arrivons pas à maîtriser. Moi, je crois que ce sont des choses qui nécessitent, pour les liens, nous n'avons pas de problème. Et s'agissant de celui qui peut être l'initiateur, mais je crois lui-même, il l'a dit, il a cité le président angolais, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, qui a pris cette initiative. Nous encourageons qu'il continue avec les consultations, avec toutes les parties prenantes à ces dialogues, afin que l'effectivité se réalise.
Voilà, apparemment une partie de l'opposition, celle qui a pris les armes, pourrait être, n'est-ce pas, exclue de ces dialogues, parce qu'il a dit qu'il n'était pas disposé à parler avec les personnes qui ont pris les armes contre la République et qui ont commis des exactions contre les populations congolaises.
Vous savez, c'est pour nous l'occasion de revenir pour faire comprendre à notre peuple quelle est la philosophie de l'Alliance pour le changement et quelle est l'idée que nous sommes en train de prôner. Je venais de vous dire que nous sommes des démocrates. Nous sommes les respectueux des textes. Quand vous lisez la Constitution de la République qui reconnaît l'opposition, ne vous parle pas d'une opposition armée, vous parle d'une opposition politique tout court. Et quand vous allez lire les textes portant organisation fonctionnelle de l'opposition, et on ne vous parle jamais de cet aspect, parce que pour nous, nous condamnons tout individu, groupe d'individus qui s'hasarderait chercher à prendre le pouvoir par la force, par les armes, ou par un coup d'État, ou par la rébellion, ça c'est pas démocratique. Et nous combattrons ces gens jusqu'au bout.
Et donc, le dialogue avec la majorité au pouvoir, en face, l'opposition politique, ainsi que la société civile, ça s'arrête là?
Non. Vous savez que le président Jean-Marc l'avait déjà dit. Il avait dit parce que nous reconnaissons que nous avons l'agresseur qui est Kagame. C'est un pays qui était identifié. Il avait proposé à cette conférence-là, que je cite du mois de novembre, que Kagame devrait se retrouver avec Tshisekedi, ce qui s'était passé à Washington. Les pays se sont retrouvés. Et il avait souhaité dire, parce que ce qui se passe à Doha aujourd'hui, ce sont les supplétifs de Kagame et les supplétifs de Tshisekedi qui se retrouvent là-bas. Ils doivent résoudre cette question-là parce que ce sont tous des agresseurs, ce sont tous qui font endeuiller la République. Nous ne pouvons pas permettre.
Et comment vous concevez ces dialogues? Et qui pourrait participer à ce dialogue, selon vous, à l'Alliance pour le Changement?
C'est clair.
La majorité au pouvoir?
Nous avons les gaillards de l'Union Sacrée, c'est-à-dire ces gens, les Dieudonné Nkichi là-bas.
De la majorité au pouvoir?
De la majorité au pouvoir. L'opposition, il y a nous l'opposition politique. Et il y a aussi les forces vives de la nation. Voilà les trois composantes qui doivent faire partie. Parce que nous devons nous regarder en face en tant que Congolais et résoudre cette question-là.
Et donc, vous êtes aussi d'accord qu'on ne puisse pas associer à ces dialogues la rébellion, les gens qui ont pris les armes?
Surtout que nous sommes aussi partie prenante, nous ne sommes pas les organisateurs. Ça dépendra de la philosophie et de l'idée de ceux qui seront médiateurs dans cette lutte. Mais je voulais ajouter un petit élément.
Rapidement.
M. Guimaté, je profite peut-être, c'est pas une question que vous avez posée. Vous avez senti dans les réponses du président Dieudonné Nkichi, il vous dit qu'il est d'un camp qu'on appelle anti-dialogue. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il devrait venir nous dire qu'il a été réellement, il n'a jamais été mandaté par le chef de son groupement ou le chef de sa famille politique pour aller prôner l'anti-dialogue. Quand aujourd'hui, Tshisekedi dit qu'il veut le dialogue, est-ce que le Dieudonné Nkichi pouvait encore avoir le courage de venir même ici pour parler et partager du point de vue de Tshisekedi? C'est comme ça que nous vous avons toujours dit. Il faut avoir...
Non, il a essayé, n'est-ce pas, d'établir une certaine distinction entre la position chef de l'État et leur position en tant qu'initiateur, n'est-ce pas, de cette coalition anti-dialogue.
Il a salué la position.
Mais il a posé des conditions.
Il n'a pas posé des conditions. Il est obligé de se soumettre à la logique de son chef.
On va évoluer. Oui. Itiel Batoumi, que vous êtes analyste politique à Ebouteli, Institut congolais des recherches sur la politique et la violence en RDC. Votre analyse à cette idée d'un éventuel dialogue national tel que le conçoit les chefs de l'État, c'est-à-dire il doit se tenir sur le territoire national, convoqué, organisé par les institutions de la République, la Constitution ainsi que les lois de la République doivent être respectées.
Ce n'est pas la première fois que le président de la République reconnaisse la nécessité du dialogue tout en posant ses conditions. Vous vous rappellerez qu'il y a déjà depuis le 25 août une feuille de route qui lui avait été soumise par la coalition des églises, d'un côté la FENCO et l'ECC et de l'autre le conseil interreligieux de Kilt qui est dirigé notamment par Dodo Kamba. Et ces deux groupes d'églises avaient travaillé avec la présidence pour définir cette feuille de route. Et donc, en réalité, le président de la République a déjà tous les éléments nécessaires pour convoquer les dialogues nationaux comme sollicité par une bonne partie de l'opinion publique. Mais la grande question aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi ce dialogue? Quel est l'objectif de ce dialogue? Est-ce ce dialogue pourra résoudre la crise sécuritaire ou il servira comme par le passé à coopter les opposants ou les membres de la société civile au sein du gouvernement? Ou alors, est-ce que ce dialogue sera pour définir les réformes nécessaires à la bonne gouvernance du pays, notamment les réformes électorales? Et je pense que la question de l'entérinement des décisions du dialogue ou le format dans lequel ce dialogue va se dérouler, il est important de s'interroger sur cette question dans la mesure où toutes les décisions qui pourraient sortir de ce dialogue devraient nécessairement être entérinées par le Parlement si ce sont des résolutions qui exigent qu'il y ait des lois qui soient adoptées et normalement des lois qui peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Par exemple, lorsqu'en 2018, entre 2016 et 2018, le dialogue de la CENCO avait réussi à aboutir à la création du Conseil national de suivi de l'accord. Il y avait eu une loi pour que cette nouvelle institution d'appui à la démocratie soit créée, et cette loi créant le CENCO avait fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, ce qui avait permis à ce que le censeur soit installé et qu'il jouisse de tout le pouvoir nécessaire en tant qu'institution d'appui à la démocratie. Donc sur ce point, je pense qu'on est tous d'accord que le dialogue ne devrait pas et ses résolutions ne devraient pas se substituer à l'ordre constitutionnel établi, et je pense que sur ce point, le président de la République a raison. Il a également raison lorsqu'il trace les lignes rouges qui ne devraient pas être dépassées, notamment en termes de criminels qui ont causé des crimes par rapport à tout ce que traverse aujourd'hui la population de l'Est. Sauf que ces lignes rouges, pour qu'elles soient exécutées, elles dépendront nécessairement dans une large mesure de ce que le processus en cours à Doha va accoucher comme résolution dans le volet de justice, vérité et réconciliation. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a un protocole qui doit compléter l'accord cadre de Doha pour les aspects liés à la justice, à la vérité et à la réconciliation. Et je pense que c'est à ce niveau-là que l'enjeu doit se jouer. D'où, lorsqu'on parle de l'inclusivité en disant que c'est les personnes qui sont soupçonnées d'être auteurs des crimes les plus graves par rapport à ce qui se passe dans l'Est de notre pays, alors lorsqu'on les inscrit, il faut se rassurer que Doha arrive à les mettre hors d'état de nuire dans un processus qui est externe. Dans le cas contraire, si Doha les autorise ou les accorde une certaine amnistie, peu importe leur exclusion au dialogue national, on aura perdu à assurer le respect de ces lignes rouges.
Voilà.
Donc je pense que...
Oui, vous avez dit que vous avez posé des questions au sujet des objectifs, n'est-ce pas, poursuivis par ces dialogues, et vous venez de dire que le chef d'État a raison quand il estime que ces dialogues doivent se tenir conformément, n'est-ce pas, à la Constitution, et aussi il a raison quand il trace certaines lignes rouges. Et à votre avis, qui doit justement définir les contours de ces dialogues, Étienne Batoumiké?
Je pense que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant qu'arbitre, lorsque le pays est menacé, il a cette responsabilité-là de convoquer les dialogues. Mais en convoquant les dialogues, il ne doit pas être juge et parti parce que il est indexé par une partie de l'opinion, notamment l'opposition politique, une partie de la société civile, qui pense qu'il fait partie du problème ou l'opposition qui conteste sa légitimité. Mais au-delà, je pense qu'il y a des aspects qui méritent que bien qu'il soit l'autorité qui convoque le dialogue, qu'il soit également parti au même titre que les autres parties prenantes à ce dialogue pour que les résolutions puisse se prendre dans un contexte qui permet les débats sur les vraies questions sans la contrainte d'une quelconque autorité qui aurait la supériorité sur les autres parties prenantes. Parce que pour moi, je suis convaincu que la question du dialogue ne pourra pas résoudre la crise sécuritaire. Plutôt, le cadre approprié, c'est Doha aujourd'hui et l'accord de Washington dont la République démocratique du Congo peut aujourd'hui se féliciter d'avoir arraché, en dépit de quelques faiblesses que l'on peut détecter dans cet accord. Mais aujourd'hui, il faut savoir que les cadres pour résoudre la crise sécuritaire sont tracés. L'objectif de ce dialogue, et lorsqu'on lit les rapports de la mission d'observation électorale CENCO-SCC, qui demandait à ce qui est la convocation des États généraux des élections, moi, je pense que à ce jour, on devrait axer beaucoup plus ce dialogue à définir les réformes nationales nécessaires à la bonne gouvernance du pays, notamment les réformes électorales. Les réformes électorales, pourquoi? Parce que de plus en plus, lorsqu'on conteste la légitimité du pouvoir politique en place, on parle de la manière dont les élections de 2023 se sont déroulées. Et donc, pour éviter qu'à l'avenir, nous ne puissions revivre la même situation des élections bâclées, il est important aujourd'hui sachant que Doha règle les questions sécuritaires, que l'on se concentre à travers ce dialogue à définir les questions essentielles par rapport aux élections de 2028. Est-ce que le président de la République en fonction aujourd'hui pourra être candidat en 2028? Est-ce que la CENI qui est en place pourra-t-elle continuer à exercer son mandat, sachant que son mandat se termine à la veille de 2028 en 2027? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la bonne loi électorale qui puisse permettre de résoudre les problèmes qui ont toujours été décliés depuis que nous organisons les élections en République démocratique du Congo? Voilà ce que je pense ce dialogue doit avoir comme priorité et non pas se concentrer sur les questions sécuritaires qu'elle n'a pas, dont elle n'a pas les moyens de résoudre, sachant que c'est des questions qui sont déjà traitées à Doha.
Oui, Itiel Batmike, est-ce qu'au finish, tout ne sera pas fonction du rapport des forces sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas le rapport des forces sur le terrain qui va, n'est-ce pas, déterminer les contours de ces dialogues, comme on l'a vécu lors des accords de San City, les dialogues de San City?
Alors, si nous arrivons à mettre le rapport des forces devant le consensus, je pense qu'on va aboutir au même résultat qu'on a eu par le passé. On aura des concertations de 2013, comme on aura un dialogue à l'image des concertations de 2013, où la majorité de l'époque, l'AMP, a recyclé une partie de l'opposition pour entrer au gouvernement. On aura la même chose comme au dialogue de la Cité de l'OI en octobre 2016, où on a compté une autre partie de l'opposition avec la nomination de Sami Badibanga à l'époque, où on aura encore la duplication des consultations qui ont récemment eu lieu en 2025 sous l'égide du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et donc on risque d'aboutir à une consultation de l'Union sacrée avec l'Union sacrée comme on l'a constaté en 2025 avec cette consultation du Conseil spécial. Et donc pour qu'on puisse arriver à un vrai dialogue, il faut que le dialogue puisse avoir un mandat clair, avec un pouvoir clair, sans que les questions de rapport de force puissent jouer dans ce débat, un peu comme lorsque en 2016, après l'échec du dialogue de la Cité de l'OIA, la CENCO a été appelée à la rescousse pour aider à avoir un compromis. Merci. Autour de l'accord de 2016 qui a permis l'organisation des élections de 2018.
Merci. Nous allons écouter les nombreux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Monsieur Dieudonné Kishi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la province de la Tchopo, Apollinaire Tchomba.
C'est Apollinaire Tchomba Lumbulé depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. L'ouverture annoncée du président Félix Tshisekedi à un dialogue intercongolais répond sur le principe à une revendication ancienne de l'opposition, des confessions religieuses et de certains partenaires internationaux. Encadré par les institutions de la République et le respect de la Constitution, ce dialogue se veut inclusif et apaisé. Toutefois, l'annonce du dialogue ne suffit pas à en garantir l'impact. La véritable difficulté réside dans le choix des interlocuteurs. Un dialogue national n'a de sens que s'il implique les acteurs avec lesquels il est politiquement nécessaire de dialoguer. Or, plusieurs figures majeures de la crise congolaise sont aujourd'hui condamnées par la justice, ce qui risque de vider le processus de sa substance et de les réduire à un exercice formel. Dès lors, une question me vient en tête. Un dialogue peut-il être véritablement inclusif lorsque les principaux acteurs de la crise en sont absents?
Monsieur Dieudonné Kishi.
Bon, je salue Apollinaire à Kisangani, mais comme beaucoup de Congolais, je constate que lorsqu'on évoque dialogue, c'est pour résoudre non pas les problèmes du pays, mais pour résoudre les problèmes des individus, pour résoudre les problèmes des gens. Or, c'est ce que tous les dialogues ont fait jusqu'ici. C'est quel pays où on refait les mêmes choses, j'allais dire les mêmes bêtises, et on reprend tous les jours la même chose, sans se soucier des faux résultats que ces choses-là arrivent à nous donner. C'est vraiment phénoménal de constater ça. Donc, tous ceux qui réclament des dialogues ici, la plupart, si pas tous, c'est pour résoudre des problèmes personnels. C'est pour résoudre des problèmes vraiment
pas de problème d'État. Parce que la question de l'Est, si on dit... Parce que pour nous, pour moi, la question essentielle, c'est la question de l'intégrité de notre territoire.
C'est pourquoi d'ailleurs l'auditeur pose la question de savoir est-ce qu'on peut régler ces problèmes sécuritaires sans associer les personnes qui ont pris les armes.
Nous disons ceci, deux volets de réponse. La première réponse, c'est que de quoi nous parlons lorsqu'on parle de la crise sécuritaire? Parce qu'à côté, il y a un pays, le Rwanda, qui a dit c'est lui qui crée tout ce qui est à l'Est. Et à côté du Rwanda qui vous dit c'est moi qui les patrons du M23, c'est moi, j'ai Bukavu, j'ai tout ça. Donc le Rwanda s'est affirmé clairement en tant que celui qui crée la panique à l'est de notre pays. Maintenant la question que je pose à l'opposition, c'est celle de savoir si elle a parlé avec Kagame, avec le président Kagame, avec le président du Rwanda, et ils ont eu la garantie qu'il suffit de se mettre autour de la table et que cette crise-là va s'arrêter. Alors, après, ils sont autour des questions personnelles. Vous voyez, Tchomba pose la question. Pour moi, pour nous du Front Anti-Dialogue, nous disons qu'il y a des questions essentielles. Et Batoumi que vient de le dire aussi, vient d'évoquer l'une des questions essentielles. Mais c'est la question des élections. Au moment où on est, au moment où l'opposition est dans toutes les rues du monde pour en train de chercher les dialogues, ils oublient qu'il y a élection en 2028. C'était le moment de commencer à réclamer les réformes de la loi électorale. Nous avons une constitution qui pose problème. Tous les analystes, tous les spécialistes de cette constitution, chacun s'étant exprimé en temps non suspect. Tout le monde vous a dit que c'était une mauvaise constitution. Mais voici le moment d'aller au dialogue pour en parler. C'est ce qui concerne l'État. Les problèmes de gouvernance, parce que tous nous disons qu'il y a des problèmes de gouvernance. Mais c'est le moment de dire comment on fait pour que...
Pour améliorer la gouvernance.
Pour améliorer la gouvernance. Parce que pour nous, la question de l'Est est là. Il suffit de maîtriser le Rwanda. Il suffit de retirer le Rwanda dans la question de l'Est. Tout le reste va marcher. Donc, pour nous, nous disons... Les temps, la garantie, c'est laquelle? Il n'y a pas de garantie. Tout le monde parle comme on parle là parce que c'est devenu comme une chanson. Dialogue. Mais ça va donner quoi? Ça va donner quoi, ces dialogues-là? Et vous voyez la tergiversation. Lorsqu'on dit, bon, publiez alors vos revendications que les Congolais, que vous prétendez représenter, que les Congolais, en nom de qui vous voulez parler, sache quand même que lorsque l'honorable Martel, mon grand frère, va aller là-bas, il ira avec tel problème. Et lorsqu'il arrive là-bas, qu'il y ait des télévisions qui les montreront en train de dire de ne pas changer ce qu'il a dit aux Congolais. Parce que nous avons une mauvaise expérience de dialogue. Voilà ce que nous disons.
Merci Martin Kokole. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui appelle depuis la ville de Kinshasa, Serge Nsapou,
depuis la ville de Kinshasa. Les propos du président de la République sont fondés dans la mesure où la RDC est un État à part entière dont la souveraineté ne doit pas être mise en cause, que ce soit par un groupe armé, ni encore par un État tiers. L'organisation d'un dialogue par les Congolais et pour les Congolais visant à résoudre un problème entre Congolais ne doit pas rendre à tout moment la Constitution et le Code pénal du pays obsolètes. Cependant, les critères de participation à ces dialogues doivent avoir un caractère général et impersonnel.
Honorable M. Kongolé,
je crois que je remercie Serge Sapou. Il a donné un point de vue, je crois, qui rejoint notre façon de réfléchir, parce que nous sommes les respectueux des textes et nous tenons que la Constitution soit respectée. Et tous ceux qui peuvent aller en dehors de cette Constitution et des lois de la République doivent être sanctionnés et gérés conformément à ces textes-là. Je crois que nous sommes dans cette logique et c'est pourquoi nous sommes en train de réclamer que nous devons arriver au niveau du dialogue. Mais je crois qu'il y a un élément.
Avec quel objectif le dialogue?
Je voulais
poser cette question plusieurs fois. Ça va aboutir à quoi, à votre avis?
Non, mais je crois que c'est bien d'abord qu'on arrive à comprendre à partir d'aujourd'hui que le dialogue a toujours eu un objectif. Qu'on se rappelle, si je peux prendre San City, nous nous retrouvions avec une république qui était composée. Jean-Pierre Bemba était chef chez lui, les Roubero étaient chef chez eux, Mboussa Nyamwisi était chef chez lui, et nous avions Kabila qui était aussi chef. Donc, l'intégrité territoriale n'existait pas. Et parce qu'il y avait ces problèmes-là, la recherche de l'intégrité territoriale, et San City a résolu cette question-là. Nous sommes rentrés à l'unité. Parce que si ce n'était pas San City, je crois que nous n'allions pas parler de ce qui nous a amené jusqu'à la construction de la Constitution ici, qui nous a amené à mettre en place les institutions ici des élections.
Et là, vous avez parlé, n'est-ce pas, avec les gens qui avaient pris les armes?
J'ai dit ceci. Moi, je parle de pourquoi les dialogues. Parce qu'il y a des gens qui confondent les dialogues. Le dialogue a toujours un objectif. Arrêter un problème qui se pose.
Dans les cas d'espèce.
Dans les cas d'espèce, nous avons un problème. Nous n'avons pas l'intégrité territoriale et nous n'avons pas la paix. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa n'a pas le contrôle de Goma, n'a pas le contrôle de Bukavu. Nous disons, ça ce n'est pas sérieux, nous devons rentrer dans l'intégrité territoriale. C'est un problème que nous avons.
Et vous êtes convaincu qu'à l'issue de ces dialogues, on va récupérer toutes les villes qui sont occupées par la rébellion?
Mais vous savez, il y a des choses que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, que vous allez comprendre qu'elles vont se matérialiser dans les quelques jours qui viennent. Que veulent les Congolais, que veut le peuple congolais et qu'est-ce que l'opposition est en train de porter? Nous avions dit qu'il y a un problème, un pays qui nous agresse, ça c'est de la compétence. Du pouvoir en place, de pouvoir prendre langue avec. C'est pourquoi vous comprenez qu'il y a Washington, qu'il y a Doha, c'est pour résoudre cette question-là, afin que nous rentrons, nous Congolais, nous regarder en face, pour que nous puissions réellement continuer avec les processus démocratique qui a été installé dans notre pays conformément à la Constitution. Mais j'entends les gens qui pensent que ces dialogues ici, c'est pour aller peut-être réviser la Constitution. Non. Les dialogues pourra fixer les critères, pourra fixer les éléments qui pourront nous permettre de pouvoir... Les cahiers des charges, on ne les présente pas avant. Quand nous nous retrouverons, celui qui est médiateur, qui est en train de faire des consultations, il consulte et chaque composante, chaque partie aura sa façon de contribution pour arriver réellement à mettre de l'ordre dans notre pays, à ramener la paix et à pouvoir éviter les morts qu'ils sont en train de compter. C'est à ce moment, quand le dialogue sera convoqué, nous nous retrouverons autour des médiateurs et nous présenterons les vérités. On ne peut pas présenter les cahiers des charges maintenant.
Merci Thierry Batoumike. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis, une fois de plus, depuis la ville de Kisangani dans la Chopo.
J'appelle la partie de Kisangani. Blessed à tout bout. Les dialogues intercongolais voulus par le président Tshisekedi présentent un risque réel de manquer de crédibilité s'il reste fortement encadré par le pouvoir en place et dépourvu de garanties sur l'inclusivité et la mise en œuvre des résolutions. Dans un contexte de crise persistante, il pourrait être perçu comme un exercice politique de plus sans impact concret sur les attentes profondes des populations. À mon avis, la RDC n'a pas tant besoin d'un nouveau dialogue que d'actions concrètes et courageuses pour rétablir la sécurité, lutter contre l'impunité et améliorer la gouvernance. Sans résultat visible sur le terrain, tout dialogue aussi bien mais tensionné, soit-il le risque de renforcer la lassitude et la méfiance des citoyens envers les institutions.
Itiel Batoumike.
Je pense effectivement que la crédibilité du prochain dialogue réside sur la neutralité de toutes les parties prenantes. Et donc, elles doivent être sur le même pied pour pouvoir débattre d'égal à égal. Sinon, les résultats de ce dialogue ne vont que consolider les statu quo. Et donc, il est important que l'on sache que si le président de la République est légitimement et légalement dispose du pouvoir de convoquer ce dialogue, il n'a pas à influencer, il n'aura pas, il ne devrait pas avoir à influencer le cours et la suite des travaux qui vont se dérouler dans le cadre de ce dialogue. Il est donc important de savoir définir un mandat clair, une mission claire et pour ce dialogue, afin de ne pas perdre encore le temps, alors que le pays a besoin d'être fixé par rapport aux échéances attendues en 2028 pour contribuer encore à la consolidation de la démocratie et couper court aux soupçons aux soupçons de confiscation de la démocratie. Il est donc important aujourd'hui de se rendre compte que la feuille de route que la CENI a publiée en avril 2025 devient de plus en plus obsolète et que le seul moyen aujourd'hui pour remettre le processus électoral sur les rails, c'est d'aller rapidement vers la convocation de ce dialogue et de pouvoir tabler des questions essentielles par rapport à l'organisation des élections de 2028. Sans cela, nous risquons de nous retrouver dans une situation où les partis prenants, donc les partis politiques et les forces vives de la nation, seraient dans une sorte de compromis pour un glissement, parce que à ce jour, on voit peu d'intérêt pour le suivi de la feuille de route publiée par la CENI, et je pense que ce dialogue qui se poursuit à l'horizon est un moyen nécessaire pour remettre cette question sur la table et débattre de ce que nous voulons pour notre pays pour les prochaines années et surtout pour la consolidation de la démocratie en RDC.
Merci, nous allons maintenant conclure, nous sommes presque vers nous tendons vers la fin de l'émission. Dieudonné Nkichi, comment vous entrevoyez la suite par rapport à cette initiative, à cette idée, à l'éventualité, n'est-ce pas, de la tenue d'un dialogue dans ces pays? Comment les choses pourraient évoluer selon vous?
Bon, moi je pense que les gens n'ont pas besoin d'un dialogue dans ce pays, le vrai.
Pour l'instant?
Oui. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, le chef de l'État va convoquer le dialogue, mais il sera partie prenante. Donc, on lui reconnaît le pouvoir de convoquer le dialogue, mais lorsqu'il sera question de débattre, il devient l'égal de tout le monde. Il va débattre d'égal à égal. C'est quelle logique? Pourquoi alors il convoque? On ne comprend pas. Donc, le problème qu'on a ici, c'est que les gens refusent de respecter les institutions qui sont établies. Les gens refusent. Les gens, depuis qu'ils étaient allés à Sun City, ils pensent que même lorsque le peuple a voté un dirigeant, lorsque le peuple a mis en place les institutions, il suffit que ces gens-là contestent, disent que ces institutions-là, on n'en veut plus. C'est que tous les peuples congolais a suivi leur position. C'est ça. Il faut qu'ils sortent de la logique de Sun City. Parce que tout ce qui a été fait par Sun City est synthétisé par ce qu'on appelle la Constitution. Est-ce que l'opposition, parce qu'il n'y a pas deux oppositions, hein, il n'y a que l'opposition, il n'y a pas opposition armée, ce n'est pas reconnu par la Constitution. Est-ce que l'opposition reconnaît la Constitution? Oui. Est-ce que l'opposition reconnaît un président de la République établi? Oui. Alors pourquoi on ne veut pas lui laisser diriger, c'est-à-dire gérer en fonction du mandat qu'il a reçu? Pourquoi on veut apostropher son mandat? Pourquoi on veut confisquer la souveraineté du peuple congolais?
Ah, c'est ça l'intentionnalité de la démarche de l'OPC.
Faisant tout ce qu'ils sont en train de faire, sans poser la question au peuple, ils sont en train de confisquer la souveraineté du peuple, à qui personne n'a posé la question.
Merci, Martin
Boukoli. Et personne n'est prêt à ce qu'un référendum soit fait. Posez-leur la question, qui est prêt pour que tous nous puissions aller poser la question au peuple lui-même s'il veut d'un dialogue ou pas? Personne n'est prêt.
Merci, Martin Boukoli. Vous allez réagir, n'est-ce pas, aux propos de M. Dieudonné Nkichi et aussi conclure, hein, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin.
Non, je crois qu'il faut qu'on comprenne certaines choses. Il y a beaucoup de choses que mon frère Dieudonné est en train de raconter ici. Nous ne sommes pas dans la même période que Sun City. S'il faut se référer, il ne faut pas aussi qu'il y ait la confusion entre dialogue et consultation. Nous reconnaissons les institutions, nous reconnaissons la Constitution, nous reconnaissons que le chef de l'État, il a le droit de consulter les organes. Mais vous ne pouvez pas continuer à oublier que cette même constitution donne le pouvoir à tout citoyen et à l'opposition de pouvoir chercher à préserver l'intégrité territoriale et à protéger la vie et la sécurité de la nation. Lisez bien la loi portant respect des fonctions et organisation fonctionnelle de l'opposition. Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir, quand bien même il a été l'issue de la constitution. La même constitution nous donne le pouvoir de lui dire, mais pourquoi les morts continuent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi nous n'avons pas la gestion d'une partie de la République? Pourquoi nous n'avons pas la paix? Ça, ce sont des choses
que vous devez comprendre. Voilà pourquoi nous disons, nous devons nous retrouver autour d'une table en nous regardant en face en tant que partie prenante au bon fonctionnement de notre pays, nous en tant qu'opposition, vous en tant que le pouvoir qui est en place, sans oublier les forces vives de la nation. Ça, c'est une réalité que vous ne devez pas chercher à contourner, détourner. Et je crois, je sais que vous n'avez pas, vous n'êtes pas dans l'esprit de votre chef, de votre groupe. Lui est dans une autre logique, il est dans la logique que nous sommes en train de dire. Mais comme nous l'avons toujours dit, que ce qui l'entoure aujourd'hui, ce sont les anciens, les kabylistes, qui ne veulent pas que des choses changent, qui ne veulent pas qu'on respecte la Constitution, qui ne veulent pas que nous rendent. Vous parlez aujourd'hui de la légitimité, de qui le peuple, mais si le peuple ne trouve pas réellement les comptes, okay, vous allez demander que nous ne puissions croiser les bras. C'est ça notre rôle. Nous merci, continuons à jouer notre rôle.
Merci, Thierry Watmike. Votre mot de la fin, le contexte actuel pourrait nous permettre de faire, de concevoir un dialogue qui soit différent de celui qui a été organisé à Sun City, parce que c'est le même contexte de crise sécuritaire. Est-ce que c'est possible qu'on puisse concevoir un dialogue qui soit différent de celui de Sun City? Ça sera votre bon mot de la fin.
Je pense que c'est le moment de faire le dialogue, un dialogue différent de tous les dialogues qui ont été organisés par le passé, pas seulement celui de Sun City. Et il faut éviter que le dialogue soit un moment de transaction politique, un moment où on laisse d'abord le temps passer et lorsqu'on arrive à glisser, là on convoque le dialogue pour pouvoir finalement faire des transactions, coopter certaines personnes dans le gouvernement et prolonger les mandats ou avoir encore quelques années en bonus. C'est aujourd'hui le moment pour que les gens se mobilisent autour de ce dialogue avec un mandat clair et précis, où on a un dialogue qui parle des réformes électorales, un dialogue qui est exclusivement consacré à la manière d'améliorer les prochaines élections. Et aujourd'hui, on a tous les arguments nécessaires pour pouvoir se rendre compte que ce dialogue est important, parce que toutes les activités prévues dans la feuille de route de la CENI n'ont pas été réalisées dans les délais qui ont été prévus. Merci. Et c'est un motif aujourd'hui pour pousser, pour qu'il y ait moins de difficultés vers l'organisation des élections de 2028 et faire en sorte que les dialogues ne soient pas un moment de négociation pour merci, servir les intérêts des politiques.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Dieudonné Nkichi, Martem Konkola et Thiel Batoumike. Merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Moudoumbi qui était à la réalisation et à Pierre Diassinois et André Mongou qui était à la technique, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.